Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le pape part ce lundi, un peu avant 9h du matin, au Brésil pour les 28e JMJ. Cette semaine sera celle des jeunes, a promis François. Lors de l'Angélus, il a confié leur questionnement à la Vierge. Le pape a lui-même demandé la protection de Marie. Il a tenu à prier samedi en la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Ce dimanche, commentant l'évangile de Luc, François a rappelé que la prière et l'action sont toujours profondément unies dans la vie des chrétiens. Et puisque les jeunes sont à l'honneur, nous donnons la parole à deux grands voyageurs ayant cheminé vers Jérusalem et Rome, en couple et en famille. Mathilde et Édouard Cortès sont les invités de Sœur Catherine Aubin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican en langue française.
Cari fratelli, et sorelle, buongiorno.
Face à un parterre de milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape a commenté l'évangile de Luc quand Marthe et Marie accueillent Jésus à Béthanie. Depuis les fenêtres des appartements pontificaux en ce 16e dimanche de temps ordinaire, François a analysé les deux attitudes des jeunes femmes. L'une s'assied au pied du Christ quand l'autre s'affaire, accaparée par les multiples occupations du service. Pour le pape, leur comportement n'est pas à opposer, car dans la vie chrétienne, la prière et l'action sont toujours profondément unies. Antonino Gallofaro.
L'écoute de la parole et la contemplation comme le service concret auprès de son prochain. Pour le pape, ces deux aspects sont essentiels dans la vie d'un chrétien. Ils ne doivent jamais être séparés, mais au contraire être vécus dans une profonde unité et harmonie. Le pape souligne d'ailleurs qu'une prière qui n'amène pas à une action concrète envers un frère pauvre, malade, en difficulté ou dans le besoin est une prière stérile. Et dans le même temps, quand lors d'un service ecclésial, on est attentif seulement à faire quelque chose, qu'on accorde plus de poids aux choses, aux fonctions, aux structures, qu'on oublie la centralité du Christ et qu'on ne se réserve pas du temps pour dialoguer avec lui, alors on risque de se servir soi-même et non pas Dieu. Enfin, pourquoi donc Jésus réprimande Marthe lorsqu'elle lui demande « Seigneur, cela ne te fait rien, ma sœur me laisse seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider ». Parce que, conclut François, c'est dans la contemplation et d'un fort rapport d'amitié avec le Seigneur connaissons-nous la capacité de vivre et d'apporter l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa tendresse aux autres.
Et après la prière de l'Angélus, François a remarqué les pancartes brandies sous ses fenêtres par les fidèles, pancartes lui souhaitant un bon voyage. Le pape les a remerciés, leur a demandé d'accompagner spirituellement par leur prière son déplacement au Brésil. Celui-ci commencera dès ce lundi. L'avion du pape décollera à 8h45 heure de Rome pour arriver 12 heures plus tard à Rio de Janeiro. Des JMJ que le pape voudrait rebaptiser les semaines de la jeunesse, il l'a dit ce dimanche midi. Après l'Angélus, il a lâché ses notes. « Tous ceux qui viennent à Rio veulent entendre la voix de Jésus. Écoutez, Jésus a-t-il dit. Seigneur, que je dois faire de ma vie? Quel est le chemin pour moi ?» Le pape s'est interrompu. « Y a-t-il des jeunes aujourd'hui, place Saint-Pierre ?» Et en entendant les acclamations, François leur a demandé de se poser ces mêmes questions eux aussi. Il a enfin confié ces questions que se posent les jeunes à la Vierge Marie. « Tant aimée et tant vénérée, a-t-il dit, au Brésil ?» Et puis samedi, en fin d'après-midi, le pape François avait déjà lui-même demandé la protection de la Vierge pour son prochain voyage, pour les jeunes réunis à Rio et pour tous les jeunes de la planète. Le pape s'est en effet rendu en la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Il s'est rendu directement dans la chapelle où se trouve l'image de la Vierge Salus Populi Romani, la sauvegarde du peuple romain, une icône très vénérée à Rome. Devant cette icône mariale, le pape a longuement prié en silence pendant plus d'une demi-heure, avant d'offrir un bouquet de fleurs à la Vierge, d'allumer un cierge portant le symbole des JMJ de Rio. Vendredi, François avait également tenu, avant de partir pour Rio, à rencontrer son prédécesseur Benoît XVI. Vous retrouverez toutes les informations concernant ses déplacements, ses nouvelles, sur notre site internet www.radiovaticana.va. Nous avons parlé du pape, mais que se passe-t-il déjà en ce moment au Brésil? Flash mob, célébrations, chants, prières. La semaine missionnaire s'est achevée. Tous convergent maintenant vers Rio. 2 500 000 pèlerins sont attendus sur place pour les JMJ. Ils viennent de 170 pays, dont la Syrie. De très nombreux Syriens catholiques auraient voulu s'y rendre, mais en raison du conflit qui dure maintenant depuis plus de 2 ans et demi, seule une dizaine de Syriens seront à Rio de Janeiro. Salvatore Sabatino parle de leur préparation spirituelle avec Monseigneur Zenari, nonce apostolique à Damas.
D'après l'expérience que j'ai eue dans ces derniers 4 ans et demi, j'ai vu toujours qu'il y avait une belle préparation de jeunes pour aller célébrer avec les Saint-Pères et les autres jeunes du monde, soit ici à Damas et en particulier, je me souviens, à Alep. Et cette année, à cause de la guerre, de la situation, des moyens qui ne permettent pas, seulement un petit nombre a pu participer à cette rencontre. Il vient de quitter Damas, mais seulement une dizaine de jeunes. Mais les autres aussi, ils m'ont dit, ils m'ont assuré, je suis en contact avec eux, les jeunes de Damas, par exemple, les jeunes d'Alep. Ils ont beaucoup d'enthousiasme, même s'ils ne peuvent pas participer. Et ils ont décidé, avec leurs évêques, leurs prêtres, de faire un programme et en union avec les Saint-Pères et avec tous les jeunes du monde qui seront à Rio de Janeiro. Ils célébreront dans leurs respectives diocèses, paroisses, communautés religieuses, avec beaucoup de ferveur, ils célébreront cet événement.
Et pendant toute cette semaine, vous pourrez suivre les différentes activités du pape et des jeunes à Rio lors des JMJ en nous écoutant, bien sûr, mais aussi en lisant nos articles en temps réel ou presque sur Internet. Pour vivre les JMJ en images, nos journalistes commenteront en français les différents rendez-vous brésiliens du pape. Il vous suffit de vous rendre sur notre page Internet, de cliquer sur « Le pape en live ». Attention au décalage horaire, bien sûr, beaucoup des événements auront lieu quand la nuit sera tombée en Europe. Et puis enfin, pour tous nos auditeurs qui s'apprêtent à vivre ces JMJ directement à Rio, je vous signale une adresse mail qui a été créée pour vous afin de nous envoyer vos photos et vos impressions. L'adresse mail radio-vatican-jmj2013@gmail.com. Ils sont jeunes, ils sont en chemin. Catherine Aubin a interrogé pour nous 2 marcheurs qu'on ne vous présente plus, Mathilde et Édouard Cortès, de grands voyageurs partis en 2007 à pied, sans argent, de Paris à Jérusalem pendant 8 mois. En 2012, ils ont repris la route et cette fois-ci en famille avec leurs 3 filles pour aller du Puy-en-Velay à Rome. En tant que journaliste indépendant, Édouard Cortès participe à différentes parutions dans la presse écrite, la télévision. Il se consacre aujourd'hui particulièrement à la réalisation de documentaires, de reportages, à l'écriture aussi de récits. Ils ont écrit avec Mathilde des livres dont Un chemin de promesse, 6000 km à pied, paru en 2008. Catherine Aubin les interroge sur la signification justement de leur marche, ainsi que sur le sens du pèlerinage intérieur. Il s'agit d'une rediffusion.
Édouard et Mathilde Cortès, sur votre site, il y a une phrase de saint Augustin, « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Pourquoi cette phrase?
Parce qu'elle reflète un peu le sens que j'aimerais donner à ma vie pèlerine. Dire que je sais que, certes, la grâce est là, mais la grâce n'agira que quand mes pas commenceront. Et j'aime cette formule parce que nous avons une route qui nous amène, que moi je pense être vers Dieu, du moins j'essaie de marcher, et les pas que nous devons fournir, c'est peut-être notre mouvement qui vient pour que nous puissions avancer.
Il y a dans cette phrase « Avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche ». La route, elle n'existe parce que uniquement parce que l'on marche. On a l'impression aussi dans cette phrase que le point le plus important, c'est le mouvement. Et tout à l'heure, Édouard Cortès, vous avez dit « notre vie pèlerine ». Vous êtes, je crois, depuis 5 ans en marche, parce qu'il y a eu Jérusalem. Et depuis Jérusalem, il y a au moins 1, 2, 3 pèlerinages.
Je ne sais pas si on peut les compter. En tous les cas, nous avons, en arrivant à Rome, nous avons accompli les 3 pèlerinages majeurs. C'est-à-dire que j'avais été à Compostelle en 99 tout seul. Nous avons été en couple à Jérusalem, en partant depuis Paris à pied. Et aujourd'hui, Rome en famille. Et donc, on peut dire que les 3 grands pèlerinages du monde chrétien, nous avons eu cette grâce et cette chance de les accomplir par nos petits pas. Quand j'ai parlé de notre vie pèlerine, c'est bien l'idée, non pas forcément de la randonnée, qui est importante, le physique est important, mais c'est que nous nous sentons étrangers sur cette terre et que notre patrie, on va la découvrir en marchant dans notre cœur, en marchant s'il faut physiquement. Et c'est pour ça que nous nous sentons pèlerins sur cette vie terrestre.
Est-il nécessaire de marcher avec ses pieds, de faire autant de kilomètres pour rejoindre son cœur? Vous venez de vous-même de dire qu'on marche aussi pour rejoindre le lieu de son cœur. Mathilde?
Pas nécessairement pour tout le monde, sans doute, puisque de toute façon, il y a des gens qui physiquement sont incapables de marcher parce qu'ils peuvent être dans un fauteuil roulant, dans un lit, et qui peuvent accomplir, Dieu merci, ce pèlerinage jusqu'à leur cœur. Mais il se trouve que nous, on ne doit pas être très cérébral. Et le moyen de la marche physique, quelque chose de très beau qui nous est donné, quelque chose d'extrêmement naturel. Hein. En marchant, on ne fournit pas un effort sportif intense. On va au rythme naturel de l'homme. Hein. Et après, évidemment, on fournit un effort quand c'est dans la durée, dans l'endurance. Mais c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Quelque chose d'extrêmement sain, d'extrêmement naturel, la marche. D'ailleurs, on conseille aux femmes enceintes, aux personnes malades, aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, aux personnes âgées de marcher. Tout simplement parce que dans la marche, je trouve qu'il y a quelque chose de, dans la marche un peu au long cours comme ça, quelque chose de très unifiant en fait. On arrive, alors de temps en temps, hein, c'est pas toujours, mais une fois qu'on a dépassé les ampoules, le mal de dos, tout ça, on arrive à justement entrer dans une espèce de musique intérieure, voilà, au rythme des pas, au rythme de la nature aussi, et au pas de l'homme. Et bah parfois il y a ces petits instants magiques, merveilleux, où on a ce sentiment d'une ouverture de cœur par la marche, qui du coup fait jaillir la prière, une prière toute simple en fait. La prière du marcheur, elle est bien petite et bien pauvre.
Édouard Cortès.
Oui, Mathilde parle de l'unification, et moi j'aime beaucoup cette notion que la marche arrive à réconcilier tous les domaines de notre être. Le cœur, l'intelligence, le corps, tous ces domaines par l'espèce de balancier que font les pas, par cet effort physique. Finalement, le corps, une fois qu'il est à peu près bien, si l'effort n'est pas trop violent, si on n'est pas trop paresseux non plus, une fois qu'on est dans ce balancier des pas, alors il peut arriver ce moment de grâce où on se sent unifié. Et c'est ce qui nous est tellement dur dans la vie quotidienne, dans le stress, dans le boulot, c'est de trouver cette unification. Surtout que dans la marche, il y a aussi le temps qui nous est donné, le temps qu'on prend, que ce soit une journée, que ce soit 4 mois, 6 mois, 8 mois comme pour aller à Jérusalem, mais il nous est donner un temps pour accomplir une distance, et on sait qu'avec nos pas, on sait qu'on ne mettra pas plus de 5 km par heure. Mais voilà. Et donc ce temps où on est unifié permet aussi de rejoindre à un moment le temps présent et l'instant présent. Et c'est ce moment où vous êtes unifié et vous goûtez à l'instant présent. Je crois qu'on est là tout simplement dans le temps de Dieu, et donc c'est le moment où on touche un peu le ciel de ses doigts de pied.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on entend ce chant de l'âme?
On peut l'entendre si on a ouvert son cœur pour l'entendre. Et c'est là où la marche est effectivement seulement un moyen. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas et qui peuvent accomplir ce pèlerinage qui est pour moi le plus difficile, celui qui va de la tête au cœur. C'est quoi? Ça doit être 50 cm, 40 cm, et c'est sans doute cela le plus difficile à accomplir. Pour moi, la marche est un moyen extraordinaire d'avoir ces petits instants. Alors évidemment, au cours d'un pèlerinage à pied, c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ça. Mais quand on y a goûté, on sait par expérience combien est doux justement ce moment où on arrive à entendre cette musique intérieure et à pouvoir être tout ouvert et tout donné.
Édouard Cortès, vous avez un exemple, un souvenir
Il y en a eu plusieurs, mais au plus proche, c'est un souvenir en Toscane, sur les routes italiennes. Nous partions très tôt pour essayer de combattre la chaleur, et donc on partait à 5h du matin, avec la petite carriole et l'âne. Et j'ai vu là l'aurore se lever à travers les cyprès dans les collines de Toscane. Et je pense souvent à Gustave Thibon qui disait « On n'a jamais senti l'éternité si on n'a jamais vu le soleil se lever à l'aurore ». Et c'est exactement ce matin-là où je voyais les cyprès, cette route qui serpentait à travers les collines de Toscane, ce chemin blanc, et que je voyais l'aurore se lever sur ce chemin avec le sentiment de mener mon petit équipage qui est ma famille, ma femme, ce petit âne et cette petite carriole. Et j'avais le sentiment d'être à ma place, d'être là en pater familias, mais aussi d'être vraiment en pleine communion avec la nature et par la nature avec Dieu.
Et vous, Mathilde ?
À la fois pour Jérusalem et pour Rome, il y a eu deux moments très, très beaux justement où on se sent porté. C'est la vision de la ville qu'on a tant désirée pendant des mois. En l'occurrence pour Jérusalem, après 8 mois de marche, quand on arrive d'abord au Mont Scopus, puis au Mont des Oliviers, on voit la ville, la vieille ville de Jérusalem devant soi. Et là, il y a un sentiment de plénitude qui dépasse complètement la propre victoire personnelle en disant « Oui, j'ai réussi à la force de mes pieds, j'ai réussi à arriver dans cette ville. » C'est un sentiment qui est beaucoup plus grand que ça, qui est au-delà justement de la propre victoire humaine, une joie qui nous transporte vers plus haut en fait. On se dit « Voilà, j'ai atteint une ville, un endroit terrestre. » Mais il y a comme une espèce d'illumination qui dit que cet endroit terrestre n'est qu'une pauvre image de quelque chose de beaucoup plus grand en fait.
Est-ce qu'on peut dire que finalement vous avez été rejoint par Jérusalem ?
Je crois que oui, parce qu'il y a même eu plusieurs moments où pendant 8 mois on disait à tout le monde « je vais à Jérusalem ». Et à un moment, en fait, on s'est dit « mais en fait on s'en fiche d'aller à Jérusalem ». On était même prêts à ne pas arriver à Jérusalem. Et je pense que là, effectivement, Jérusalem nous a rejoints. Nous a précédé parce que c'est comme si on avait déjà atteint Jérusalem avant même d'atteindre la Jérusalem physique en Terre Sainte.
Comme dit le psaume, chacun est né là-bas, comme si l'on portait déjà Jérusalem en soi.
Ouais. Il y a quelque chose de très mystérieux avec Jérusalem. Hein,
Abraham, dans le chapitre 12 de la Genèse, le Seigneur lui dit « quitte ton pays », on sait que la traduction c'est « va vers toi ». Est-ce que c'est ce genre d'appel que vous avez entendu ?
L'appel à pèleriner, pour moi, il est depuis que j'ai à peu près 15 ans, il est d'abord un appel de la route. Avant peut-être d'être l'appel du chemin intérieur, il a été d'abord très par les pieds. Il fallait que je fasse quelque chose de fort, un peu à la Saint-Pierre qui tire son épée et qui dit « Moi, Seigneur, je peux être fort pour toi ». Et j'avais cette impression de me dire, si en tant qu'adolescent, puis en tant qu'adulte se construisant, si j'étais capable de faire quelque chose avec mes pieds, et en plus que j'étais capable de l'offrir pour le Seigneur, alors là, j'étais très fort. Et ça a été toute la déconstruction de ma vie d'adulte et de père de famille, où justement, je me découvre incapable de cheminer vers Dieu et même vers moi-même et vers les autres sans l'appui, sans le roc du Christ. Et c'est très beau que cette déconstruction de me dire, depuis plus de 15 ans, je marche, depuis plus de 15 ans, j'essaie d'aller, de faire un effort, un chemin intérieur, un chemin physique. Et en fait, tout ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est moi qui suis rejoint. Et on a l'idée là d'être rejoint par la Jérusalem, mais je suis rejoint par la Jérusalem céleste, par le Christ. Et donc, pour moi, il y a un peu un chemin aussi de déconstruction dans ma manière de pèleriner.
Édouard Cortès, dans la Bible, à qui vous ressemblez le plus ou quel est le personnage qui vous parle le plus ?
Le personnage qui me parle le plus, c'est l'âne. C'est l'âne parce que pour avoir cheminé 4 mois avec un âne, je sais ô combien il est intelligent et je comprends ô combien pourquoi le Christ ne fait qu'être porté par les ânes. Et il a été doux de voyager avec notre âne pour tirer la charrette, pour tirer la carriole. Et je ne traiterai plus jamais personne d'âne parce que je sais qu'un idiot ne peut pas être traité d'âne.
Mathilde et Édouard Cortès étaient les invités de Sœur Catherine Aubin ce dimanche. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission. Nous nous retrouvons demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de la rédaction française de Radio Vatican.